Appendice. Note sur les textes de l'expédition d'Erebor. L'établissement du texte pose ici des problèmes complexes, difficiles à résoudre. La première version est un manuscrit complet, mais de tout premier jet, et abondamment corrigé, que j'appellerai version A. Le titre en est « L'histoire des rapports de Gandalf avec Thrain et Thorin l'écu de chêne ». Une copie dactylographiée de ce manuscrit, la version B, devait subir un grand nombre de remaniements ultérieurs, bien que d'ordre mineur. Cette version s'intitule « L'expédition d'Erebor » et aussi « Où Gandalf raconte comment il vint à organiser l'expédition d'Erebor et à envoyer Bilbo avec les nains ». On lira ci-dessous de larges extraits de la version dactylographiée. Outre A et B, la première version, il existe un autre manuscrit, le manuscrit C, dépourvu de titre, qui relate l'histoire sous une forme plus concentrée et de construction plus serrée, omettant une part considérable de ce qui se trouve dans la première version et introduisant de nouveaux éléments, mais reprenant aussi, surtout vers la fin, de larges fragments de la version originale. Il me paraît certain que la version C est postérieure à B et c'est celle que j'ai donnée ci-dessus, bien que manquent apparemment des fragments du début situant à Minas Tirith la scène où Gandalf évoque ses souvenirs. Les premiers paragraphes de la version B, donnés ci-dessous, sont presque identiques à un passage qui figure dans l'appendice A, 3, le peuple de Durin, du Seigneur des Anneaux, et renvoie manifestement au récit qui les précède dans l'appendice A, où il est question de Thror et de Thrain. Quant à la fin de l'expédition d'Erebor, elle se retrouve presque mot pour mot dans l'appendice A, 3, et là aussi, dans la bouche de Gandalf, s'entretenant avec Frodo et Gimli à Minas Tirith. D'après la lettre citée dans l'introduction du présent ouvrage, il est clair que mon père écrivit l'expédition d'Erebor avec l'intention de l'insérer dans le récit intitulé « Le peuple de Durin » dans l'appendice A. Extrait de la première version. La dactylographie B de la première version commence comme suit. Ainsi, Thorin, l'écu de chêne, devint l'héritier de Durin, mais un héritier sans aucun espoir. Lors du sac d'Erebor, il était trop jeune pour porter les armes, mais à Azanul-Bizar, il s'était battu au premier rang des assaillants. Et quand disparut Thrain, il avait 95 ans, et c'était un nain illustre et de fière allure. Il ne possédait pas d'anneau, et peut-être pour cette raison, il paraissait satisfait de demeurer en Eriador. Là, il travailla dur et s'enrichit tant qu'il put par le commerce, et son peuple s'accrut dans l'affluence du peuple de Durin, qui avait entendu parler de son établissement et qui vinrent à lui dans leurs errances. Et voilà qu'ils avaient de belles demeures dans les montagnes et abondance de biens, et leurs jours ne leur semblaient pas si sombres, bien qu'ils n'aient cessé d'évoquer dans leurs chants la montagne solitaire au loin et le trésor et la félicité de la grande salle sous les feux de la pierre arcane. Les années s'accumulèrent, et dans le cœur de Thorin, les braises s'attisaient à nouveau tandis qu'il ruminait l'injure faite à sa maison et le devoir de vengeance dont il avait hérité à l'encontre du dragon. Et tandis que résonnait la forge, sous les coups de son puissant marteau, il rêvait d'armes, d'armées, d'alliances. Mais les armées étaient dispersées et les alliances rompues, et peu nombreuses les haches de son peuple. Et une grande colère sans espoir le consumait, comme il frappait le fer rougi sur l'enclume. Gandalf n'avait pris jusqu'alors aucune part dans les fortunes de la maison de Durin. Il n'avait pas eu beaucoup à faire aux nains, bien qu'il fût ami de ceux de bonne volonté et estima bien les exilés du peuple de Durin qui vivaient à l'ouest. Mais il se trouva que, passant un jour par l'Eriador, en se rendant en comté où il n'avait pas mis les pieds depuis un certain nombre d'années, il rencontra Thorin l'écu de chêne, et ils conversèrent ensemble sur la route et s'arrêtèrent pour la nuit à Bri. Le matin, Thorin dit à Gandalf « J'ai de gros soucis, et on dit que vous êtes sage et que vous en savez plus long que la plupart des gens sur ce qui se passe dans le monde. Viendrez-vous chez moi et m'écouterez-vous et me prodiguerez-vous vos conseils ?» À cela, Gandalf acquiesça, et lorsqu'ils eurent atteint la haute demeure de Thorin, il s'attarda en sa compagnie et écouta tout le récit des torts qu'il avait subis. De cette rencontre devait s'en suivre maints faits et événements de la plus haute conséquence, tels la découverte de l'anneau unique et sa venue en comté, et la désignation du porteur de l'anneau. Et nombreux sont ceux qui ont supposé que Gandalf avait prévu toutes ces choses, et qu'il avait choisi le moment de sa rencontre avec Thorin. Mais nous pensons qu'il n'en fut rien, car dans son récit de la guerre de l'anneau, Frodo, le porteur de l'anneau, rapporta les paroles de Gandalf sur ce point précis. Voici ce qu'il écrit. « Après le couronnement, nous séjournâmes dans une belle maison à Minas Tirith, en compagnie de Gandalf, et il était très joyeux. Et bien que nous ne cessions de le questionner sur tout ce qui nous passait par l'esprit, sa patience semblait aussi inépuisable que son savoir. Je ne puis désormais me rappeler la plupart des choses qu'il nous dit. Souvent, nous ne les comprenions pas. Mais de cette conversation, je me souviens très clairement. Gimli était là avec nous, et il dit à Peregrin,
« Il y a une chose qu'il me faut faire un de ces jours. Je dois aller visiter votre fameux comté. Pas pour voir plus de hobbits, je doute que je n'apprendrai plus à leur sujet que je n'en sais déjà, mais tout nain de la maison de Durin doit considérer ce pays avec émerveillement. N'est-ce pas là que furent ourdies la reconquête du roi sous la montagne et la chute de Smaug, sans parler de la fin de Barad-dûr, bien que ces événements aient été étrangement imbriqués ?»« Étrangement, très étrangement, »
dit-il, et il s'interrompit. Puis, les yeux fixés sur Gandalf, il reprit
« Mais qui tissa la trame? Je crois bien n'y avoir jamais songé auparavant. Est-ce donc vous qui avez arrangé toutes ces choses, Gandalf? Sinon, pourquoi avez-vous conduit Thorin l'écu de chêne à une porte si insolite? Pour trouver l'anneau et l'emporter loin dans l'ouest et l'y cacher? Et choisir ensuite le porteur de l'anneau en rétablissant du même coup le royaume de la montagne, comme ça, en passant? N'était-ce pas là votre dessein ?»
Gandalf ne répondit pas tout de suite. Il se leva et regarda par la croisée, vers l'ouest, vers la mer. Et à cet instant se couchait le soleil et son visage rayonnait. Et il se tint longuement ainsi en silence. Mais enfin il se tourna vers Gimli et dit
« Je ne connais pas la réponse, car j'ai changé depuis ce temps-là, et je ne suis plus accablé du fardeau de la terre du milieu comme je l'étais alors. » À cette époque-là, je vous aurais répondu avec des mots semblables à ceux que j'adressais à Frodo pas plus tard qu'au printemps dernier. Dire que c'était seulement l'année dernière. Mais ces mesures ne signifient rien. À cette époque lointaine et reculée, j'ai dit à un petit hobbit tout effaré, « On a voulu que Bilbo trouve l'anneau, sans toutefois que son créateur y soit pour quelque chose. » Auquel cas, on a voulu aussi que vous l'ayez. Et j'aurais pu ajouter, on a voulu que ce soit moi qui vous amène, tous les deux, à de telles circonstances. Pour ce faire, j'ai usé consciemment, du moins, uniquement des moyens qui m'étaient octroyés, faisant ce que j'avais à faire d'après les raisons qui étaient les miennes. Mais quant à ce que je savais en mon cœur, ou ce que je savais avant de mettre le pied sur ces sombres rivages, c'est une toute autre histoire. Olorin, je fus dans l'Ouest, dont la mémoire s'est perdue, et seulement à ceux qui sont là-bas parlerai-je plus ouvertement. »
Je dis alors, « Je vous comprends un peu mieux maintenant, Gandalf, que je ne le faisais auparavant. Je pense cependant que Bilbo aurait pu refuser de quitter son foyer, qu'on l'ait voulu ou pas, et moi de même, et vous ne pouviez pas nous y contraindre. Vous n'aviez même pas le droit d'essayer. Mais je suis encore curieux de savoir pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, tel que vous étiez alors, sous les airs d'un vieil homme en gris. » Là-dessus, Gandalf leur explique ses incertitudes de l'époque concernant les premières manœuvres de Sauron et ses craintes pour la Lorienne et pour Fandeval. Dans cette version, après avoir déclaré que de porter un coup direct à Sauron était plus urgent encore que de s'occuper de Smaug, il poursuit.
Voilà pourquoi, pour faire un saut dans le temps, je partis dès que l'expédition contre Smaug fut en bonne voie, et je persuadai le conseil d'attaquer d'abord Dol Guldur pour prendre Sauron de vitesse avant qu'il n'attaquât la Lorienne. C'est ce que nous fîmes, et Sauron prit la fuite. Mais il avait toujours une longueur d'avance dans ses desseins. Je dois avouer que je pensais qu'il s'était vraiment retiré une nouvelle fois et que nous aurions un autre répit, un intervalle de paix vigilante. Mais cela ne dura pas longtemps. Sauron décida de jouer le coup suivant. Il retourna immédiatement en Mordor, et 10 ans plus tard, il se révélait. Alors tout s'obscurcit, mais ce n'était pas là son plan initial, et au bout du compte, ce fut une erreur. La résistance avait encore un refuge pour se concerter librement, loin de l'ombre. Comment le porteur de l'anneau s'en serait-il tiré s'il n'y avait pas eu la Lorienne et Fandeval? Et ces havres auraient pu tomber aux mains de Sauron s'il s'était d'emblée acharné contre eux au lieu d'épuiser la moitié de ses forces dans l'assaut du Gondor. Et voilà, je vous ai tout dit. Ce fut la principale raison de mes actes. Mais c'est une chose de voir ce qu'il y a à faire. Trouver les moyens en est une autre. Je commençais sérieusement à m'inquiéter de la situation dans le Nord lorsque je rencontrai un beau jour Thorin l'écu de chêne vers le milieu de mars de 1941, me semble-t-il. J'écoutais toute son histoire et je me dis, « Eh bien, voici au moins un ennemi de Smaug, et qui mérite qu'on l'aide. Je dois faire ce que je peux pour lui. J'aurais dû songer aux nains avant. » Et puis, il y avait les gens du comté. Ce fut lors du rude hiver, dont aucun d'entre vous ne peut se rappeler, que je commençais dans mon cœur à leur vouloir du bien. Ils se trouvaient vraiment aux abois, soumis à une terrible épreuve, l'une des pires qui jamais leur fut échue, terrassés par le froid et aussi la faim durant l'épouvantable famine qui s'ensuivit. Mais c'est alors que l'on peut mesurer leur courage et leur âme secourable. Et s'ils survécurent, ce fut grâce à leur endurance et à leur force de caractère, mais aussi à cette compassion. Et je voulais qu'ils survivent encore. Et d'autres malheurs, je le sus, guetteraient tôt ou tard les terres de l'Ouest, mais d'un genre tout différent, la guerre sans merci. Pour surmonter cette épreuve, il allait falloir aux gens du comté quelque chose de plus que ce qu'ils avaient alors, pensais-je. Difficile de dire quoi. Mais il leur faudrait en savoir un peu plus long, saisir un peu mieux l'enjeu et comprendre leur position dans tout cela. Ils avaient commencé à oublier leurs propres origines et leurs légendes, oublier le peu qu'ils avaient jamais su de la grandeur du monde. Tout cela n'était pas encore disparu, mais se trouvait peu à peu enterré. La mémoire des choses grandes et des choses périlleuses. Mais on ne peut enseigner ces choses-là à tout un peuple en un rien de temps, car le temps manquait. Et de toute manière, il faut bien commencer quelque part, et par quelqu'un. Disons qu'il fut choisi, et que je fus seulement choisi pour le choisir, lui. Toujours est-il que je jetai mon dévolu sur Bilbo.
« C'est justement ce que je voulais savoir, » dit Pérégrin. « Pourquoi lui ?»«
Et vous ?» Comment choisiriez-vous un hobbit parmi tant d'autres dans ce dessin précis ? Dit Gandalf. Je n'avais pas le temps de faire mon tri parmi eux, mais j'en étais venu à connaître le comté sur le bout des doigts, même si à l'époque où j'ai rencontré Thorin, je n'y avais pas mis les pieds depuis plus de 20 ans, retenu au loin par de plus sombres affaires. De sorte que tout naturellement, passant en revue les hobbits de ma connaissance, je me suis dit « Il me faut une bouffée de touque, mais pas trop, maître Pérégrin, et une base solide d'un genre plus flegmatique, un Bessac peut-être. » Et voilà mon Bilbo tout désigné. Je l'avais bien connu autrefois, presque jusqu'à l'âge de sa majorité, mieux qu'il ne me connaissait lui. À cette époque, j'avais de l'affection pour lui, et voilà que je le retrouvais libre, pour sauter à nouveau dans le temps, car bien entendu, je ne sus rien de tout cela avant mon retour au comté. J'appris qu'il ne s'était jamais marié. Je trouvais ça curieux, même si je croyais comprendre pourquoi. Et la raison que je soupçonnais n'était pas celle que me fournirent la plupart des hobbits, qu'il s'était trouvé tout jeune à la tête d'une grande fortune, devenant son propre maître. Non, je devinais qu'il avait voulu demeurer libre, pour une autre raison, bien plus profonde, une raison qu'il ne comprenait pas lui-même ou qu'il refusait d'admettre, car elle l'effrayait. Il voulait cependant être libre de partir lorsque la chance se présenterait ou qu'il aurait rassemblé son courage. Je me rappelais comme il me harcelait de questions quand il était gamin sur les hobbits qui un beau jour avaient décampé, comme on disait dans le comté. Deux au moins de ses oncles du côté Touk l'avaient fait.
Les oncles en question étaient Ildifons Touk, qui partit en voyage et ne revint jamais, et Isengard Touk, le plus jeune des 12 enfants du vieux Touk, dont on disait qu'il était allé en mer dans sa jeunesse. Le Seigneur des Anneaux, appendice C, arbre généalogique des Touk de Grand Smials. Lorsque Gandalf accepta l'invitation de Thorin de l'accompagner chez lui dans les montagnes bleues, il raconte
« Nous passâmes en fait par le comté, mais Thorin ne voulut pas s'arrêter assez longtemps pour que cela me soit de quelque utilité. D'ailleurs, je crois que ce fut mon agacement devant son mépris hautain des hobbits qui me donna l'idée de les fourrer ensemble. Pour lui, ce n'était guère que des cutéreux qui se trouvaient travailler les champs des deux côtés de la route ancestrale des nains vers les montagnes. »